Le rôle donc de l'usine de Mel pendant la Grande Guerre. À l'occasion du centenaire, plusieurs personnes ont souhaité connaître le rôle qu'a pu occuper cette entreprise melloise pendant la Grande Guerre. On m'a sollicité, j'ai accepté, parce que je travaille dans cette société depuis 1985 et je m'intéresse à son histoire. N'étant pas historien, je vais essayer de vous donner la narration des différents événements qui sont venus se greffer année après année de 1914 à 1918. La période que je vais développer concerne que la Grande Guerre. Pour cela, je me suis appuyé sur l'exposé qui avait été donné par M. Paul Savary le 9 juin 1966, dont le titre s'intitulait « L'usine de Mel » de 1872 à 1921. Pour comprendre le rôle de l'usine pendant la Grande Guerre, j'ai pensé utile de rappeler un certain contexte. La situation géographique, Mel se situait en dehors des zones de combat, son passé, avec des hommes qui, par leur génie, leur ingéniosité, leur opiniâtreté, ils ont su apporter les moyens matériels humains au bon moment, ce qui a été fort utile pendant la période de guerre. Je pense que nous avons le devoir de rendre hommage à certains de ces hommes qui ont été des acteurs importants pour cette entreprise, et je vais vous en citer quelques-uns. En 1872, Jean-François Caille, qui eut l'idée d'implanter l'usine au carrefour de deux axes routiers importants, vers les années 1885, Firmin Charbonneau et Thierry-Frédéric Lelarge, qui eurent l'idée d'orienter l'activité de l'usine à la fabrication d'alcool suite à la crise du phylloxéra. À la fin du 19e et au début du 20e, d'illustres ingénieurs ont apporté des ressources à l'usine, et je citerai messieurs Ricard, Chapuis, Almette, Boineau, Guinot et Savary. Ce sont ces atouts qui permirent à l'usine de Mel de répondre aux sollicitations de la défense nationale. Commencement de la guerre. En août 1914, la mobilisation priva d'un coup l'usine d'une partie de son personnel qui fut remplacée par des réfugiés du Nord et de la Belgique. À partir de septembre 1914, la stabilisation du front permit une nouvelle réorganisation de l'industrie chimique en France, sachant que la grande majorité se situait dans des zones occupées. Les distilleries situées dans des zones non occupées durent produire à tout prix de l'alcool, l'usine de Mel fut concernée. Dès les premiers mois de la guerre, un gros besoin d'alcool se fait sentir pour fabriquer de l'éther qui est le solvant des poudres françaises. Les usines de Mel, Sel, Forge et Aigrefeuille marchèrent à plein régime pour produire l'alcool. Il semblerait que des matières premières, maïs, blé avarié étaient acheminés par train entier, ce qui occasionnait des encombrements à la gare de Mel. À ce moment-là, l'on ne parlait pas de flux tendu. Début 1916, arrive une nouvelle alarmante. Les Alliés vont manquer d'acétone. Ceci concerne tout particulièrement les Anglais qui, pour leur cordite, qui est un explosif, employèrent non point de l'éther, mais de l'acétone comme solvant. Il fallait à tout prix produire de l'acétone. L'usine de Mel, ayant eu connaissance de cette pénurie d'acétone, elle proposa ses services à l'industrie de l'armement pour lui fournir du produit. Monsieur Almette prit contact avec les services anglais. Des essais furent entrepris en septembre 1916. Le procédé mis au point eut vite ses limites. Entre-temps, M. Boineau mit au point un procédé plus performant, ce qui permit de produire de l'acétone en grande quantité et dans des délais plus courts. La première livraison eut lieu en février 1917 et en avril 1918, la cadence passa à 45 tonnes mois. D'autres besoins sont apparus pendant la Grande Guerre. ce qui permit de maintenir une certaine activité au sein de l'usine de Mel. Un des besoins, le furfurol, qui était un excellent dénaturant pour l'essence, ce qui permettait de limiter la consommation. L'usine de Mel fut sollicitée pour fabriquer ce produit. M. Ricard acheta le brevet et à la fin de 1917, des équipements furent installés donc à Mel pour permettre la fabrication. Le procédé utilisait des épis de maïs et du bisulfate de soude provenant des poudreries. Par ailleurs, M. Guinot, ingénieur chimiste ayant travaillé à la mise au point du procédé de furfurol, eut l'idée, avec un confrère ingénieur, de travailler à la mise au point d'un produit pour les gaz de combat. Avant de développer l'étonnante aventure de ce produit, je souhaiterais vous rappeler le contexte de l'usage des gaz de combat pendant la Grande Guerre. Au début de la guerre, l'Allemagne produisait près de 80% des besoins de produits chimiques dans le monde. Bien que les conventions de la Haye de 1899 et 1907 interdisaient l'utilisation des gaz de combat, l'Allemagne fut la première à utiliser ce qui lui semblait le meilleur moyen pour se sortir de l'impasse de la guerre. Le chlore fut le premier gaz utilisé le 22 avril 1915, à Ypres, en Belgique, d'où le nom employé d'hypérite. Par la suite, le phosgène et le gaz moutarde vinrent grossir la liste des composés mortels utilisés par les deux camps. Des contre-mesures, comme l'utilisation des masques à gaz, permirent donc de réduire la dangerosité des attaques chimiques des gaz de combat, et ce qui représentait 4% des morts. Après cet aparté, je reviens à l'usine de Mel et le feuilleton de ce fameux produit utilisé pour les gaz de combat. Monsieur Guinot, avec ses confrères ingénieurs, proposèrent au laboratoire Job de préparer, comme gaz de combat, un produit possédant des propriétés vésicantes équivalentes à l'hypérite allemande. Ce produit était obtenu par réaction d'éthylène sur le chlorure de soufre. Simplement, le procédé était lent et il fut décidé de faire de nouveaux essais avec du butylène en effectuant une déshydratation catalytique du butanol de l'usine de Mel. Les résultats en laboratoire et sur les animaux furent tout de suite excellents. Les ingénieurs du laboratoire Job furent emballés par le procédé et M. Job décida d'appeler ce fameux produit la jumélite. Devant l'engouement des ingénieurs, les responsables militaires ordonnèrent de fabriquer des dizaines de tonnes de produits, ce qui fut lancé à l'usine de Pontclay près de Grenoble. Peu de temps après avoir commencé la fabrication du produit, il se produisit un événement qui fit douter de son efficacité. Un ouvrier fut arrosé par le liquide en réaction. En dépit des soins qui lui furent prodigués, tous pensèrent qu'il avait peu de temps à vivre. Heureusement, il se sortit d'affaire assez aisément, et à ce moment-là, les chimistes eurent des doutes sur le pouvoir vésicant de la jumélite. Devant ce constat, l'ordre fut donné d'arrêter la fabrication. Si la jumélite n'a pas eu de succès, chacun s'accorde à dire que l'usine de Mel a joué un rôle important pendant ces 4 années de conflit. Conséquence de la Grande Guerre, elle fut un tremplin pour l'usine de Mel. Messieurs Ricard et Almette, qui avaient évolué jusqu'à présent dans des milieux intéressés à l'alcool, ils eurent par leur connaissance des ouvertures sur le monde de la chimie avec des services officiels des chercheurs de l'industrie chimique en France et à l'étranger, ce qui permit au laboratoire de Mel de se projeter dans l'avenir avec de nouveaux procédés qui furent vendus à l'étranger. Des exemples au lendemain donc de la guerre, les services de l'aéronautique qui avaient besoin de vernis pour les ailes des avions, ils passèrent à l'usine de Mel une importante commande d'acétate d'éthyle. L'hydrogel provenant de la fabrication du butanol et de l'acétone fut utilisé au gonflement des ballons. Conclusion. Si la Grande Guerre fut un épisode terrible pour de nombreuses familles, l'usine de Mel a su tirer profit du rôle qu'elle a pu jouer au cours de cette période, ce qui lui a permis de s'ouvrir au monde de la chimie et de reconquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux grâce à l'audace et les compétences des hommes et des femmes qui ont été les acteurs de la vie économique de l'entreprise avant, pendant et après la Grande Guerre. Aujourd'hui, l'an 2014, j'ai été heureux de vous parler de l'usine de Mel dans le contexte de la guerre 14-18. Merci pour votre attention et je tiens à remercier Messieurs Claude Joly et Monsieur Alain Lévesque de m'avoir remis les archives qui m'ont permis de faire cet exposé.